aborde le rapport entre foi et raison, qui sont les deux chemins par lesquels on peut avoir accès à la vérité. D'abord, précisons bien, la façon dont on accède à la vérité par la raison et la façon dont on accède à la vérité par la foi. Par la raison, c'est tout simple, c'est-à-dire simplement avec ce que nous pouvons connaître par nous-mêmes en regardant le monde, en regardant les hommes. Eh bien, on réfléchit et puis on cherche qu'est-ce que c'est, comment ça marche, d'où ça vient, où ça va. Voilà, ça, c'est la raison. La raison qui réfléchit à partir de ce qu'elle peut percevoir. Et puis, la connaissance par la foi, on ne s'appuie pas uniquement sur ce que nous voyons par nous-mêmes, mais on s'appuie sur ce que Dieu dit. C'est la source. On écoute Dieu et à partir de ce que Dieu dit, on réfléchit. Ça, c'est la connaissance par la foi. Voilà. Donc on voit les deux sont à la recherche de la vérité, la raison comme la foi, mais l'une s'appuie simplement sur nos capacités naturelles, l'autre regarde aussi ce que Dieu, dans sa bonté, dans sa bienveillance, dans son amour, a bien voulu nous dire. Alors, comme les deux cherchent la vérité, il doit y avoir un rapport étroit entre les deux. Et d'abord, qu'est-ce que la foi peut recevoir de la raison ? Ça ne va pas être le sujet principal. On va plus développer sur ce que la raison peut recevoir de la foi. Mais quand même, disons d'abord ce que la foi peut recevoir de la raison. Il y a une caractéristique très essentielle, fondamentale du christianisme, c'est que ce que l'on croit et que Dieu nous révèle, on doit pouvoir en rendre compte devant la raison. Ça, c'est Saint-Pierre qui le dit. Soyez toujours prêts à rendre raison de ce que vous espérez. Vous voyez ? Donc il faut savoir expliquer ce que l'on croit. En fait, ceci est capital. Vous voyez, c'est dans la nature profonde du christianisme. Parce que si vous prenez l'évangile selon saint Jean, au début, il y a ce qu'on appelle le prologue, donc l'introduction de l'évangile selon saint Jean. Et saint Jean nous dit... Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Au commencement était le Verbe, le Verbe. Qu'est-ce que c'est que le Verbe ? En grec, on dit logos, et le logos, on peut le traduire par parole, donc Verbe, parole, c'est un peu la même chose. Et on peut le traduire par raison, par intelligence, par vérité. Ça veut dire qu'au commencement, il y avait la raison. Au commencement, il y avait la vérité. Au commencement, il y avait l'intelligence. Et voilà que la raison, la vérité et l'intelligence se sont faites chair. Ils ont habité parmi nous. C'est Jésus. Jésus, c'est la vérité faite chair. Donc, si la révélation chrétienne est présentée comme cela... ça veut dire que lorsque Jésus parle aux hommes, eh bien, il s'adresse aussi à leur intelligence, puisque lui-même est l'intelligence absolue qui vient parmi nous. Alors, ceci est capital pour éviter ce qu'on pourrait appeler, c'est Benoît XVI qui en parle comme ça, des pathologies de la foi. Ça veut dire des maladies de la foi. Et quelles sont les maladies de la foi ? Eh bien, les maladies de la foi, on va en décrire une, toute simple, c'est ce qu'on appelle le fondamentalisme ou le fanatisme. Donc, quand, si vous voulez, ce qu'on croit, on dit, c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir, c'est Dieu qui l'a dit, c'est révélé en avant. Et sans possibilité du tout de dialogue avec l'homme intelligent, avec l'homme raisonnable. On voit bien que si on avait une telle foi, quel est le moyen pour répandre cette foi ? Ce n'est pas de rentrer en dialogue avec les hommes et puis d'essayer d'expliquer ce que nous avons reçu comme lumière de Dieu, puisque par définition, c'est en dehors de la raison. Eh bien, il reste la force, il reste la violence. Eh bien, le christianisme dans sa nature profonde, est le contraire du fanatisme. Oui, parce qu'il est verbe fait chair, raison faite chair. Donc Jésus s'adresse à l'homme et à l'homme avec son intelligence. Voilà. Hein, et donc il faut toujours savoir corriger cela. Benoît XVI surtout a beaucoup, beaucoup insisté dans ce sens-là, hein, en disant ben, des fois, il peut y arriver qu'il y ait des exactions qui soient commises par les chrétiens et les hommes peuvent en être scandalisés. Eh bien, le fait que des hommes non-croyants soient scandalisés, ils disent « mais c'est pas raisonnable, c'est pas digne de l'homme ce que vous faites », eh bien, il faut savoir accepter et dire dans ces cas-là, on n'est pas fidèle à la nature profonde du christianisme. Voilà. Hein, parce que le christianisme ne peut présenter que des choses raisonnables. Hein, que des choses qui sont belles, qui peuvent être acceptées par l'homme intelligent. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait tout trouver par sa raison, mais ce qui nous est révélé, c'est beau, c'est intelligent, c'est merveilleux. Voilà, ça pour dire ce que la foi peut recevoir de la raison. Et puis maintenant, alors, ce que la raison peut recevoir de la foi. On va d'abord le dire, et puis après on va le développer, parce que c'est surtout ce qu'on va prendre et qui est développé dans l'encyclique. Eh bien, ce que la foi peut apporter à la raison, c'est qu'elle donne confiance à la raison. Elle lui dit, la foi dit à la raison, tu es capable de penser, tu es capable de réfléchir sur les choses importantes de la vie, et tu es capable de trouver. Et elle empêche la raison de démissionner. Alors, ceci, eh bien, on va essayer de le creuser. Alors, pour le creuser, on va d'abord regarder ce qu'est la raison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui par notre intelligence? Et puis, on va voir ce qu'est la foi. Et en voyant ce qu'est la foi, on va voir que ça donne confiance à la raison. Alors, qu'est-ce que la raison aujourd'hui? La raison, l'intelligence, donc on va chercher la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous savez, il y en a un qui a posé cette question à Jésus. Hein, c'est Pilate. Voilà. Hein, Jésus lui disait, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Et tournant les talons, il n'a pas écouté la réponse. C'est un peu l'attitude de l'homme moderne, ça, facilement. La vérité, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une vérité? Alors oui, il y en a une quand même, on va dire. La vérité, au niveau technologique, ça fonctionne, donc c'est vrai. Ça marche. Hein. Bon, c'est une partie de la vérité, et tout à fait juste, il n'y a pas du tout de raison de la dénigrer, ça fait partie de ce que l'on peut connaître, et c'est très bien. Mais on se méfie d'une connaissance, d'une soi-disant vérité qui pourrait... donner un sens à la vie. On va plutôt insister, après, il faut être authentique, voilà. Ou plutôt sincère, sincère avec soi-même. Voilà. En agissant un peu selon ce que l'on ressent, selon mon intériorité, alors, une expression qui peut symboliser un peu cette attitude, on dit, oh, c'est ton choix, je le respecte. Voilà. Alors, tu es bouddhiste, bon, c'est ton choix, je respecte. Tu as choisi la chasteté avant le mariage, c'est ton choix, je le respecte. Voilà. Après tout, tu veux rentrer au couvent, c'est ton choix, je le respecte. Vous voyez? Ou au contraire, d'autres pratiques, c'est pareil, c'est chacun son choix. Mais dans cette attitude-là, vous voyez, quand on dit « c'est ton choix, je le respecte », ça veut dire « c'est ton choix, mais il vaut que pour toi ». Et surtout, n'aie pas la prétention de dire quelque chose qui ait une valeur un tout petit peu universelle. Hein? Ça vaut pour toi, strictement pour toi, dans ta bulle, hein? Mais c'est tout. Il n'y a pas de vérité à laquelle qu'on devrait rechercher. Vous voyez, il n'y a pas la soif de la vérité. Hein? Et de fait, on suspecte la vérité comme dangereuse. comme étant facilement un totalitarisme, une dictature. Alors, en effet, on a connu des vérités au XXe siècle. Ben, la vérité nazie, voilà, il y avait c'était un peu dans la suite de Hegel, voilà, une pensée des peuples qui se succèdent les uns aux autres, et puis on arrivait au peuple germain qui était un peu les prémices de l'État mondial et qui devait s'imposer, etc. Et puis Hitler a repris ça et en avant, et il avait une vision globale du monde, très unifiante, on peut dire, mais qui a amené quelque chose d'épouvantable. Vous avez la vérité, entre guillemets, du marxisme, qui a eu aussi une prétention mondiale et qui se présentait comme scientifique, attention, c'était très dangereux à une époque de ne pas être marxiste parce que c'était le marxisme scientifique. Alors du moment qu'on mettait l'étiquette scientifique, c'était indiscutable. Et on sait ce qu'a produit le marxisme, on peut dire des camps, des exterminations, des irrespects de l'homme, plus graves encore que ceux perpétrés par le nazisme. Alors donc, on a peur. Puis aujourd'hui, vous savez, on a une autre idéologie, actuellement dans nos pays. C'est l'idéologie de l'homme centre de tout qui fait lui-même ses normes avec la majorité acquise comme on veut et qui ensuite l'impose. Et ce qui fait que, par exemple, eh bien, si vous voulez, il y a des mères, M-A-I-R-E, donc des représentants, pas des mamans, des mères de communes, de villes, qui veulent objection de conscience pour faire des mariages de personnes de même sexe, et ça a été refusé. Vous voyez, donc il y a là aussi, vous voyez, une prétention d'une certaine vérité d'un côté, et qui veut s'imposer et qui ne respecte pas la liberté de l'autre. Donc on s'en méfie. On s'en méfie. Voilà. Et alors, dans cet état-là, dans cette condition-là, qu'est-ce qui se passe? La raison est tentée de démissionner. Elle est tentée de baisser les bras. C'est-à-dire, on va dire que l'intelligence humaine, elle est capable de raisonner dans le domaine de la technique, bon, dans quelques autres domaines un petit peu aussi, mais pour ce qui est de donner un sens sur la vie de l'homme, une vision globale de l'homme, eh bien non, on n'est pas capable. Parce que si jamais on a cette prétention-là, on tombe dans le totalitarisme, et donc il faut éviter ça. Voilà l'état de la raison. Alors justement, dans cet état de fait, qu'est-ce que la foi peut apporter à la raison? Alors regardons la foi. Et c'est là vraiment toute l'excellence merveilleuse de Benoît XVI. Parce que l'encyclique, elle est surtout de Benoît XVI. Alors, nous croyons. Et en quoi croyons-nous? C'était le premier chapitre de l'encyclique. Nous avons cru à l'amour. Voilà. Mais quel amour, en quel amour avons-nous cru? Pour le comprendre, il faut regarder un peu l'écriture. Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu votre cri, votre prière et je suis venu. » Qu'est-ce que ça veut dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob » Ça veut dire « Je suis le Dieu qui a parlé à votre père Abraham, qui a fait alliance avec lui. Je maintiens cette alliance. Je suis le Dieu ensuite qui s'est manifesté à Isaac. J'ai renouvelé l'alliance avec Isaac et je la maintiens. Et puis je suis encore le Dieu qui a parlé à votre père Jacob. Et avec Jacob encore, j'ai renouvelé l'alliance et je la maintiens. » Ça veut dire qu'il se présente comme le Dieu fidèle à ses promesses. Le Dieu qui a dit une parole et qui tient sa parole, qui ne renie pas sa parole. Et quand on regarde toute la révélation dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, c'est absolument merveilleux parce qu'on voit que Dieu choisit un peuple, que Dieu fait alliance avec ce peuple, que ce peuple est sans arrêt infidèle, sans arrêt. On peut dire que toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu qui choisit un peuple, qui essaye de l'éduquer, de le façonner, mais ce peuple, il diverge sans arrêt, à droite, à gauche, il va à des cultes d'idoles sans arrêt, souvent il ne fait pas confiance en Dieu, mais Dieu, lui, reste fidèle à son alliance, il la renouvelle, il châtie à l'occasion, hein, pour ramener le peuple à lui, et puis dans sa misère, on recrie vers lui, et à ce moment-là, Dieu, ah, j'attendais que vous criez vers moi, et il ramène ce peuple. Vous voyez, c'est le Dieu toujours fidèle. Alors, ceci nous permet de comprendre en quel amour nous croyons. Nous croyons en un amour fidèle. Voilà, hein, fidèle. Fidèle, un amour vrai. C'est un peu la même chose, Benoît XVI le souligne dans l'encyclique. Voilà, fidélité, vérité marchent ensemble. La vérité de Dieu, c'est que quand il dit une parole, il l'a prononcée et il reste fidèle à sa parole. Il ne change pas. Hein, voilà. Donc, c'est en cet amour-là que nous croyons. Et cet amour a atteint son paroxysme, il est arrivé à son accomplissement en Jésus. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas refusé son Fils unique, mais il l'a livré parmi nous. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême pour venir nous chercher, nous qui étions loin, et que cet amour puisse transformer les hommes. C'est en cet amour-là que nous croyons. Alors, l'amour va donc avec la vérité. Et Benoît XVI souligne donc à ce sujet-là, hein, que l'amour auquel nous croyons est un amour vrai. Hein. Sans la vérité, l'amour tombe dans le caractère éphémère, inconstant du sentiment. Et on ne peut pas construire là-dessus. Hein. L'amour dont Dieu nous aime est beaucoup plus grand que le simple sentiment. C'est un don absolu et sans réserve. Et là-dessus, on peut construire. Nous avons cru à l'amour, et l'amour a besoin de la vérité. L'amour, sans cette vérité fidèle, devient un château de sable, et à la première tempête, tout s'écroule, il ne reste plus rien. Tandis que l'amour avec lequel Dieu nous aime est un roc inébranlable, nous pouvons nous appuyer dessus. Et puis, en retour, nous réfléchissons sur la vérité. Nous avons cru en l'amour, l'amour vrai, donc nous croyons en la vérité. Mais quelle est cette vérité en laquelle nous croyons? Quelle est cette vérité que nous cherchons, demande Benoît XVI dans l'encyclique. Eh bien, cette vérité, c'est la vérité de l'amour, précisément. Et la vérité a besoin de l'amour pour qu'elle vraiment illumine nos vies et qu'elle nous relève. Alors, regardons. Vous voyez, je crois en la vérité de Dieu qui est amour. Et que fait cet amour? Cet amour relève. Il n'écrase pas. Regardez même le prodigue. Le prodigue, l'enfant prodigue de la parabole, on connaît, dès qu'il revient vers le père, hein, il s'abaisse devant le père. Je ne suis même pas digne d'être comme... Je suis plus digne d'être ton enfant et traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et que fait le père? Il le relève. Hein, et vite, tu en le vaugras, et il le traite vraiment comme son fils, on pourrait presque même dire de prédilection. Voilà, c'est ce que fait l'amour. L'amour n'écrase pas. Hein. L'amour n'anéantit pas, il ne détruit pas, mais au contraire, il relève. Avec la femme adultère qui avait été prise en flagrant délit, on veut la lapider. Jésus demande que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et puis après, il dit à la femme... Puisque tout le monde est parti, personne ne t'a condamné, moi non plus. Allez, va et ne pêche plus. Vous voyez, c'est l'amour qui relève, hein, qui rétablit dans la dignité. Alors, quand la vérité à laquelle nous croyons, vous voyez, ce n'est pas une vérité froide. La vérité de l'homme, c'est qu'il vient de Dieu qui est amour et qu'il est fait pour l'amour de Dieu. Hein. Saint Jean, il a bien exprimé les deux ensemble. Il a eu cette audace de dire « Dieu est amour » et il a dit aussi « Dieu est lumière ». L'amour de Dieu est une lumière qui nous éclaire. Et la lumière qu'est Dieu, la vérité qu'est Dieu, c'est qu'il est l'amour. Les deux marchent profondément ensemble. Alors, celui qui croit en la vérité qui est Dieu, croit en l'amour, et celui-là, par le fait même, eh bien, il a un amour pour tout homme, puisque Il croit en l'amour de Dieu qui a été jusqu'à l'absolu, jusqu'au don de son Fils, pour relever l'homme, quel qu'il soit, même le pire des pécheurs, lui offrir la possibilité du salut, la possibilité de la rédemption. Et donc, un tel amour ne peut pas opprimer, ne peut pas écraser la personne. Ça serait une vérité sans amour, serait dangereuse. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité à laquelle nous croyons. Ce n'est pas la vérité que nous cherchons. Vous voyez, encore pour l'illustrer, cette attitude-là, c'est l'exemple de saint Augustin qui est donné. Saint Augustin, au départ, il avait des théories un peu manichéennes, ça veut dire qu'il y avait une sorte de dieu du bien, dieu du mal, et puis ils se battent tous les deux et on ne sait pas lequel va l'emporter. Bon. Et puis, il a découvert que Dieu est lumière, que Dieu est amour, que Dieu est créateur de toutes choses. Et du coup, il a compris l'origine du mal. L'origine du mal, c'est pas un dieu du mal qui aurait fait quelque chose, qui se battrait avec le dieu du bien. L'origine du mal, elle est en moi, lorsque je n'ai pas correspondu à l'amour de Dieu. Voilà, lorsque je suis tombé, en fait, dans l'irrationnel. Et à ce moment-là, Augustin, en croyant à l'amour, reconnaît que le mal qui est en lui n'est pas une fatalité, mais qu'il est sa culpabilité, et du coup, il accueille l'amour qui le transforme, et il se relève, et il est transformé. Voyez ce que fait la foi en l'amour de Dieu. Voilà. Et alors, face à cela, quand on accueille cette vérité qui est amour, eh bien, il en découle que celui qui accueille une telle vérité, la vérité étant vérité d'un amour, une telle vérité ne peut pas s'imposer avec violence. L'amour ne peut pas s'imposer par la violence. Ce n'est pas une vérité qui écrase l'individu. Et c'est pour cela que la foi en Dieu, vérité, amour, ne peut pas être intransigeante. Le croyant, donc, ne peut pas être arrogant parce qu'il croit en l'amour. Au contraire, la vérité que le croyant accueille, cette vérité le rend humble parce qu'il se sait aimé par Dieu qui est l'amour absolu et il se sait relevé par cet amour absolu. Et donc, il n'est pas possesseur de la vérité, ce n'est pas lui qui la possède, mais c'est plutôt la vérité qui l'embrasse et qui le possède. Il est possédé par la vérité, il est possédé par l'amour et il se met au service de l'amour qui est la vérité. Donc pas d'arrogance, pas de dureté, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Alors, en disant cela, Benoît XVI nous met vraiment en présence de la nature profonde du christianisme. Voilà. La vérité à laquelle nous croyons échappe radicalement à cette critique, à cette peur du fanatisme et de l'intolérance, parce que nous croyons en Dieu qui est amour. Alors, maintenant, arrivons, on va dire, à la conclusion. Qu'est-ce que la foi apporte à la raison ? Voilà. On a décrit un peu les pathologies de la raison, on pourrait dire l'auto-limitation actuelle de la raison, qui ne s'estime compétente que dans le domaine, on va dire, technique, de ce qui est du domaine du vérifiable, du quantifiable, mesurable. Voilà. Et voilà que la foi nous dit, nous connaissons l'amour, nous connaissons le sens de l'existence et ce n'est pas de l'intolérance. Alors, en agissant ainsi, eh bien, nous reconnaissons que nous rejoignons l'expérience humaine, simplement humaine, dans ce qu'elle a de plus fondamental. Parce que même celui qui ne croit pas en Dieu, il aspire à l'amour. Il a une certaine aspiration à la vérité, pour le dire, citons saint Augustin encore. Saint Augustin disait « J'ai connu beaucoup de gens qui voulaient tromper les autres, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être trompé par les autres. » Ceci pour dire que le désir de la vérité est inscrit dans le cœur de l'homme, de même que le désir de l'amour. Et ceci, donc, qui est l'expérience commune l'expérience universelle, hein, et même de quelque chose, on aspire quand même à faire quelque chose qui dure un peu, qui laisse des traces, qui soit solide, c'est quand même préférable. Eh bien, cette aspiration-là, nous voyons que dans la foi, avec la révélation de l'amour de Dieu qui va jusqu'à l'absolu, jusqu'au don du Fils unique qui pour nous s'est anéanti afin de venir nous chercher dans notre misère, de nous relever et de nous entraîner avec lui jusque auprès de son Père, nous découvrons que ces aspirations à l'amour et à la vérité, elles ont un maximum dans ce que Dieu a révélé. Du coup, on peut de nouveau être attentif à l'expérience humaine de la recherche d'un amour vrai et de la recherche d'une vérité qui soit pleine d'amour. Et on va pouvoir encourager donc le philosophe, si vous voulez. Le philosophe, c'est, par définition, pour le distinguer du théologien, le philosophe, c'est celui qui réfléchit surtout et avec l'usage de la raison, tandis que le théologien, il accueille la révélation de Dieu et il réfléchit sur la révélation de Dieu. Mais en voyant cette vérité qui nous est donnée par la révélation, cela redonne confiance au philosophe pour dire « Oui, tu peux scruter l'expérience humaine, tu peux scruter cette aspiration à la vérité et à l'amour qui est inscrite dans le cœur de tout homme et prends confiance, là c'est un chemin qui peut donner sens à l'existence humaine. » Et prends confiance, cela ne te conduira pas au totalitarisme. Au contraire, cela te conduira au respect profond de chaque personne humaine. Vous voyez ? Voilà. Alors donc, dans ce sens-là, par ce lien vérité-amour, eh bien, Benoît XVI montre l'excellence, vraiment la beauté resplendissante de notre foi, et cela rejaillit sur la possibilité de réfléchir, pas simplement au niveau technologique, mais aussi au niveau, on pourrait dire, du sens de la vie de l'homme, la raison humaine est capable de réfléchir. Voilà, hein. Et donc on arrive à ceci que finalement, voyez, la foi n'est pas du tout quelque chose qui paralyse la raison, mais au contraire qui lui permet de se développer plus largement voilà, et d'arriver au bonheur. Hein. Bon, j'espère que vous êtes convaincus. Hein. Voilà.